Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger.
Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Bonjour à tous, décidément on ne se lasse pas de ce jingle. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Complètement à l'ouest, l'émission qui nous fait voyager et voir le monde différemment. Aujourd'hui, nous allons parler digital, il est partout, sous toutes les formes et dans notre quotidien à tous. Mais où en est-on vraiment? Nous allons tenter de répondre à cette question avec mon acolyte Philippe Boyer. Bonjour Philippe.
Bonjour Johanna, ravi de vous retrouver.
Plaisir partagé.
Alors, on doit au grand penseur de la complexité, Edgar Morin, cette réflexion sous forme de boutade, l'avenir n'est plus ce qu'il était. Comme si la foi dans le progrès, cette croyance héritée des 18e et 19e siècles, l'espoir que demain serait mieux qu'aujourd'hui avait disparu. Alors, sans sombrer dans un pessimisme excessif, sans plus non plus se vautrer dans le cynisme et des jérémiades stériles, arrêtons-nous un instant sur l'espoir que nous portions tous, le numérique, nous en étions certains, allait changer le monde. Nous en étions sûrs, cette fois c'était la bonne, en rendant tout accessible tout de suite, en mettant toutes les connaissances disponibles à notre portée, en faisant plus facilement dialoguer les êtres humains connectés les uns aux autres aux machines, nous devions aller vers un monde meilleur. 10 ans, 15 ans, 20 ans se sont écoulés, et que reste-t-il de cette révolution technologique? Force est de constater que cette éternelle prophétie d'un monde meilleur a un peu de plomb dans l'aile. Dit autrement, les lampions de la fête se sont éteints et un certain effroi succède à la joie. Bref, nous réalisons que loin d'être des forces de consensus et de concorde, le numérique découpe, segmente, polarise. Est-il encore utile de croire au bienfait de la révolution numérique ou est-il trop tard pour s'en détourner? C'est la question centrale de cette émission en compagnie d'un invité qui développe une thèse radicale nourrie par l'expérience. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, l'invité.
Bonjour Olivier Dabo, nous sommes ravis de vous accueillir dans Complètement à l'Ouest. Alors vous dirigez l'Institut Sapiens, un think tank qui réfléchit aux grands enjeux sociaux, politiques et technologiques, et vous êtes par ailleurs professeur d'université à Bordeaux. Mais votre présence aujourd'hui, car vous publiez aux éditions Buchet-Chastel, je vais y arriver, un livre décoiffant intitulé « Le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités ». Alors, on a coutume d'entamer cette émission avec un court extrait sonore, histoire de se mettre en jambes. Et celui que l'on va écouter provient d'un film tout récent, puisqu'il est encore à l'affiche, avec Blanche Gardin, Vincent Lacoste et Benoît Poulvorde. Ce film, c'est « Effacer l'historique », et on peut dire que ce film est un gentil réquisitoire contre le numérique aux mains des GAFA.
On m'a filé le contact d'un hacker.
S'il pouvait effacer celle-là aussi. C'est ma fille. Hein. C'est le portable de la gosse qui a fait la vidéo. J'ai écrit 42 lettres recommandées à Facebook. Aucune réponse, rien.
Je vais pourrir ta vie comme t'as pourri la mienne. Hein? Je vais te spoiler la face.
Moi, tu vois, c'est sur l'application client.
I am a taxi driver. I need more star.
OK.
You are alone, to do.
No, 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 we are alone.
C'est pire qu'un bracelet électronique, cette merde.
Ça a pris.
Qui sont partis en enfer dans un data center hyper sécurisé.
On va aller les chercher nous-mêmes.
Allez, on a pris le rond-point Leader Price, on va pas se faire emmerder par deux data centers.
Fuck le
gaffe! Sylvain, c'est maman. Ne tape pas mon nom dans Internet, s'il te plaît. J'arrive pas.
Alors, on va pas spoiler la fin du film, mais disons, et pour résumer, que les héros, un brin pied-nickelé, décident de partir en guerre contre les GAFA. Olivier Babot, vous dites dans votre livre, est-ce que d'une certaine manière, vous aussi, vous dites fuck les GAFA?
En tout cas, les GAFA, ils sont complètement à l'ouest. Vous ne pouviez pas mieux tomber, ça c'est certain. Vous savez ce que disait Woody Allen? Il disait « J'adore l'avenir, c'est là que j'ai l'intention de passer le reste de mes jours. » je crois qu'on va tous effectivement passer le reste de nos jours dans cet avenir. Je ne dis pas vraiment « fuck les GAFA », d'abord parce que j'ai été trop bien élevé, et surtout parce que j'ai plutôt envie de dire « la technologie est un formidable serviteur, mais un très très mauvais maître. » Et le risque, c'est que ça devienne justement de plus en plus un maître et non pas un serviteur. Donc mon livre n'est pas un livre de technophobe, c'est un livre en fait peut-être de technophile un tout petit peu représentatif. repentis ou de technophiles qui essayent un petit peu d'ouvrir les yeux ou qui se sont rendus compte que les choses n'étaient peut-être pas aussi, aussi brillantes et belles et faciles qu'on le pensait. C'est plutôt un livre de technosophie, quelqu'un qui essaye de parler de cette sagesse de l'utilisation de la technologie qu'on doit développer, parce que la techno n'est jamais rien sans les usages, et c'est les usages qui sont un petit peu le risque aujourd'hui.
Alors, si on devait tenter de résumer votre livre, quel est ce grand malaise, et c'est le mot que vous utilisez, que nous éprouvons à l'égard de la technologie et que vous décrivez en détail dans votre livre ?
On avait pensé, en effet, dans les années 2000, et on a beau être très jeune, on est un petit peu de ce monde d'avant, alors non, pas tout à fait d'ailleurs, tout à fait, mais en tout cas, on avait vraiment pensé que c'était extraordinaire, grâce à la technologie, toutes les entreprises allaient pouvoir avoir leur chance, avoir accès au marché. Vous savez, c'était la fameuse longue traîne d'Anderson. On avait pensé que tout le monde allait pouvoir avoir accès au savoir et que le savoir allait devenir gratuit, ce qu'il est devenu, et que du coup, il allait pouvoir être diffusé. On avait pensé aussi que la démocratie allait pouvoir exploser de joie, allait pouvoir s'améliorer, que chacun allait pouvoir faire entendre sa voix, que un petit peu comme Wikipédia au début, on allait célébrer le pouvoir de la foule qui allait permettre l'émergence de la vérité. Et ben, il s'est passé exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on est en train d'assister à une explosion de l'économie, de la société, de la politique, à une bipolarisation, à une disparition du savoir, à une disparition de la vérité et à une vassalisation des entreprises derrière des entreprises GAFA, qui sont des GAFA, qui sont les nouveaux seigneurs. Aujourd'hui, on est un petit peu déçu, oui.
Alors, vous dites même dans votre livre, vous parlez d'emprise psychologique de la technologie sur nos cerveaux. Et je vous cite, il faut aller page 141, « Nous risquons l'atrophie cognitive exactement comme nous risquons l'affaiblissement musculaire et le surpoids en marchant trop peu. D'où vient cette atrophie cognitive que vous décrivez? Et si on n'y fait rien, à quoi tout ça peut aboutir ?»
Eh bien, tout simplement parce que le modèle des plateformes est d'utiliser à leur profit et de façon scientifique ce qu'on sait du fonctionnement naturel de notre cerveau. Il y a un paléontologue qui avait cette idée intéressante, il disait on a un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des institutions et des technologies dignes des dieux. Et c'est cette tension entre les trois qui est utilisée par les plateformes pour utiliser nos biais cognitifs à travers le Persuasive Technology Lab de Stanford qui a étudié toutes les façons d'arriver à utiliser notre volonté d'avoir le petit shoot de dopamine, notre intérêt pour la nouveauté qui à l'origine devait probablement il y a quelques centaines de milliers d'années.
Le petit pouce levé.
Voilà, nous donner envie d'aller chasser le mécanisme de la récompense aléatoire qui faisait qu'on a envie d'y aller et qui fait qu'aujourd'hui, on va scroller chacun en moyenne 150 mètres de réseaux sociaux par jour, qu'on va regarder 200 fois nos téléphones. Et tout ça a été utilisé pour un modèle économique extrêmement simple. Il faut être le plus présent possible, le plus longtemps possible sur les plateformes afin qu'on nous puisse non seulement nous connaître, mais aussi nous vendre la publicité ad hoc, car nous sommes la matière première et non pas les clients de ces plateformes. C'est ça le vrai levier sur lequel on joue et qui a créé une économie très surprenante en quelques années de la dépendance, de l'addiction, de la captation de l'attention. On a constaté par exemple que chez les chauffeurs de taxi à Londres, la taille de l'hippocampe avait diminué. L'hippocampe, vous savez, c'est la partie de notre cerveau qui est profonde et qui stocke la mémoire spatiale notamment. Et on avait constaté que la taille de l'hippocampe a baissé depuis que les chauffeurs londoniens n'utilisent plus le GPS. Utilisent les GPS et non plus leur cerveau. Le cerveau ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et malheureusement, ces technologies, le premier âge des machines, c'était les technologies qui nous rendaient plus forts, qui nous permettaient d'aller plus loin, qui nous donnaient du pouvoir, si vous voulez. Ce second âge des machines, c'est les technologies qui sont en train de nous remplacer et donc d'atrophier notre cognition, de nous dire « ne t'inquiète pas, nous allons décider à ta place, nous allons désirer à ta place, nous allons agir à ta place, penser à ta place ». Et c'est malheureusement une pente extrêmement glissante. C'est le principe de la plus grande pente qui est utilisée par les plateformes.
Donc c'est la fameuse formule, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit.
C'est tout à fait nous le produit. Et ça, on commence malheureusement à le savoir. Mais ça ne veut pas dire qu'on va changer nos attitudes en face de ça.
Ça a l'air absolument terrible, dit comme ça. Presque une fatalité.
Oui, alors la question c'est, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ? Et la réponse est évidemment oui. Tout ça est à un clic de distance. Un clic de distance de ne pas utiliser nécessairement les mêmes applications. Un clic de distance d'essayer d'arrêter, tout simplement, de cliquer, de scroller. Le problème, c'est que c'est ça le problème toutes les dépendances, de toutes les drogues, puisque ça fonctionne un petit peu de la même façon. Et que c'est très difficile, même si on en est conscient, même celui qui vous parle a développé une dépendance à Twitter, notamment, ou des choses comme ça. C'est extrêmement compliqué. Et en fait, on est tous en train de découvrir qu'on n'a pas été élevé pour ça, mais qu'on doit essayer de d'élaborer nous-mêmes, et pour nous-mêmes et nos enfants, un nouvel art de vivre au sens plein du terme, une nouvelle façon de travailler avec les technologies qui à la fois sont des choses extraordinaires, et je ne dis pas qu'il faut débrancher Internet ou qu'il faut arrêter d'utiliser le téléphone, donc cette version Amish en quelque sorte, n'est-ce pas, ne me paraît pas la bonne idée. Pourquoi prendre la technologie de 2010, 2020, 1900 ? Il y a plein de choses extraordinaires, notamment en santé, qui sont apportées par la technologie. Donc à la limite, un livre positif sur la technologie, je me disais, c'est tellement évident que ce n'est même pas la peine de l'écrire. La vraie question, c'est faisons attention à cette face obscure, à cette phase qui est celle de l'apprivoisement de ces technologies. Il y a plein de choses à faire, exactement comme aujourd'hui, vous pouvez décider de prendre effectivement l'escalator, plutôt les escaliers à la place des escalators. Et bien, cette discipline cognitive, il va falloir qu'on s'entraîne à la voir. Et il y a quand même des choses, je ne veux pas continuer dans l'inquiétude, mais qui sont extrêmement inquiétantes du point de vue des résultats scolaires, de la capacité à la concentration et à la mémoire de nos enfants quand ils sont trop exposés aux écrans. Il y a vraiment des choses aujourd'hui autour de l'explosion en 10 ans. L'éducation nationale a montré des chiffres assez terrifiants sur l'explosion, quasiment le doublement, plus 92-93% de problèmes liés au développement du langage notamment. Et on s'aperçoit que trop d'écrans trop tôt, évidemment, est catastrophique. Et peut-être que trop d'écrans toute la vie est aussi catastrophique. Ça ne veut pas dire qu'il faut les bannir. Ça veut dire qu'il faut essayer d'en avoir le meilleur. Et ça, c'est un domaine qui nous reste à conquérir en quelque sorte.
Vous rappelez que le numérique fracture la société au même titre qu'il y a des fractures sociales ou même une fracture culturelle. Vous allez encore plus loin en me prophétisant une fracture civilisationnelle. Je vais vous laisser le dire parce que visiblement ça passe pas. En quoi notre civilisation est-elle bouleversée à ce point par Internet, et à quoi cette fracture pourrait nous amener ?
On a constaté depuis les années 90 une disparition des emplois, vous savez, moyennement qualifiés. Une disparition des emplois du milieu, si vous voulez, au profit de création massive d'emplois hyper qualifiés, et puis de création aussi d'emplois très très peu qualifiés, mais du coup évidemment très très mal payés. Et on est en train de passer de cette société en losange ou en diamant, si vous voulez, qu'on avait un peu rêvé au milieu, finalement c'était avec Giscard d'Estaing, l'idée que 2 Français sur 3 allaient à peu près se retrouver dans cette grande société, du coup unie de la classe moyenne, on y avait cru. Et c'était très différent par rapport au 19e siècle. Au 19e siècle, pendant tout le 19e siècle, 10% des gens ont 80% dit patrimoine. Cette inégalité a toujours été en fait dans l'histoire assez élevée, et le 20e siècle avait constitué un moment de réduction extraordinaire des inégalités. Elle est revenue en fait en l'espace de 30 ans et accélérée par le numérique. Soit vous avez aujourd'hui un travail qui est connecté à la mondialisation, connecté au numérique, qui va utiliser ces technologies comme un levier, et vous vivez une vie extraordinaire parsemée de pétales de roses parce que tout est formidable,
tout est plus facile.
Votre travail, vous pouvez le faire, vous l'avez vu pendant le confinement, vous pouvez avec un bon ordinateur, un téléphone, vous pouvez être n'importe où, vous pouvez être au vert, et la vie est assez sympa. Soit vous n'êtes pas connecté à la mondialisation, un petit peu comme par rapport et au numérique, un petit peu comme si vous restiez sur le quai d'un train qui va de plus en plus vite. Et ben ces gens qui restent sur le quai, en fait, il y en a beaucoup. Il y a environ 34% des Français qui ne sont pas capables d'aller chercher de l'information sur Internet.
C'est ce qu'on appelle l'illectronisme.
C'est l'illectronisme. En fait, c'est des gens qui étaient illettrés, pas analphabètes, mais illettrés, c'est-à-dire la difficulté à comprendre le sens d'un texte court, et qui aujourd'hui, évidemment, se trouvent en difficulté sur Internet. Ce n'est pas parce que vous allez sur Instagram que vous comprenez comment ça fonctionne et que vous êtes capable d'utiliser réellement ces nouveaux outils. Et de la même façon, on a environ 18%, c'est 2,8 millions de jeunes qui sont dans la catégorie des NET, des NETS, vous savez, Not in Employment, Education or Training. C'est des gens qui sont ni en train de se former, ni avec un emploi, ni en perspective d'avoir un emploi. Et ces gens-là vont être de plus en plus durablement et profondément éloignés de l'emploi. Et ça, c'est extrêmement préoccupant.
Merci Olivier Babot. On va reprendre cette discussion dans quelques instants. Avant, si vous le voulez bien, on va prendre le temps d'ouvrir les carnets de voyage.
Complètement à l'ouest, carnet de voyage.
Complètement à l'ouest, vous le savez, ce sont aussi des idées pour s'ouvrir la tête, même encore sous contrainte sanitaire. Voici une sélection de quelques lieux à voir ou à visiter pendant cet automne. Ce sont les carnets de voyage que l'on ouvre avec Poissy. Qui sait encore qu'à Poissy, donc à l'ouest de Paris, se trouve un petit bijou architectural. C'est la Maison de Fer, 130 ans après sa construction. La maison construite par l'architecte belge Joseph Danly dans les années 1890 vient de rouvrir ses portes au public après avoir été entièrement démontée et rebâtie. Les récentes journées du patrimoine ont été l'occasion pour la ville de Poissy de fêter l'inauguration de la Maison de Fer. À l'abandon depuis des décennies, elle a été déplacée et reconstruite sur les hauteurs du parc Meissonnier. tout près de la Villa Savoie de Le Corbusier, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bâtie, comme son nom l'indique, avec du fer et de l'acier en 1896, la Maison de Fer est l'un des rares exemples en France de l'architecture avant-gardiste de cet architecte franco-belge. En France, il ne reste plus que trois maisons de ce type. Après ces années de gloire au début du XXe siècle, la Maison de Fer de Poissy a été abandonnée dans le courant des années 1970 et est tombée en ruine. En 1999, la tempête en a fait un amas de tôle et il a fallu attendre 2020 et les efforts de la ville pour retrouver ce joyau. Si vous voulez découvrir la Maison de Fer, il faut aller au 14 Terres, allée des Glaïeuls à Poissy. Toutes les informations sur le site de la ville, www.ville-poissy.fr.
Alors quelquefois, l'actualité est un brin surréaliste, et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors allons jusqu'au bout de la démarche en visitant une exposition déroutante du peintre français Victor Brunner. L'artiste a disparu en 1966, mais pour vous le situer, il a quand même connu et fréquenté presque tous les grands noms du mouvement surréaliste, André Breton et Magritte, un autre peintre. C'est une très belle exposition car elle met en scène des toiles qui permettent de se déconnecter. On en a besoin de notre quotidien matérialiste et violent. On y voit des peintures qui mêlent l'exotisme, les contes pour enfants, les mythes océaniens et amérindiens. Bref, nous plongeons dans le tréfonds de notre inconscient et Brunner ne donne aucune indication à celui qui regarde. Il nous laisse libre d'interpréter ce qu'on voit, lui se contentant de donner l'impulsion de départ. Victor Brunner, je suis le rêve, je suis l'inspiration. C'est au Musée d'Art Moderne de Paris, 11 avenue du Président Wilson, dans le 16e, et c'est jusqu'au 10 janvier prochain 2021.
Et justement, on va rester dans cet univers psychédélique avec le peintre italien Giorgio De Chirico, inventeur de la peinture métaphysique. C'est une exposition qui se tient actuellement au Musée de l'Orangerie à Paris pour mettre en scène cet artiste mort en 1978. Sa peinture est métaphysique parce qu'elle transpose la réalité au-delà de la logique habituelle. Elle joue sur le contraste entre la précision réaliste des objets et de l'espace représenté et la dimension onirique que le peintre leur donne. Il travaille sur la capacité du rêve à générer des mondes à partir d'un élément connu. Via une cinquantaine de toiles, l'exposition parvient à traduire sa capacité à transcender le réel en des visions d'une infinie poésie. La peinture métaphysique, c'est au Musée de l'Orangerie à Paris et c'est jusqu'au 14 décembre.
Allez, on termine cet agenda par un peu de gourmandise. Ma chère Joanna, est-ce que vous aimez la crème chantilly?
Évidemment.
Bien, et vous savez comment on la prépare?
Pas tout à fait.
Bon, eh bien, je vous propose un cours de rattrapage en vitesse accélérée en apprenant comment on prépare cette fameuse crème chantilly faite à partir de crème fraîche liquide et un peu de sucre glace quand même, que l'on fouette jusqu'à obtenir cette mousse que l'on savoure. Et pour apprendre à devenir un ou une chef de la mousse chantilly, confiez-vous à la confrérie des chevaliers fouetteurs qui transmet chaque week-end jusqu'à fin novembre, il ne faut pas tarder, son savoir-faire pour réussir l'authentique recette de la crème chantilly inventée à Chantilly, il y a 4 siècles. Un monument de la gastronomie française qui s'apprend en une heure à la force du poignet. Tablier noué autour de la taille, fouet, cul de poule et poche à douille et à portée de main. La masterclass crème chantilly se déroule au château d'Anguin, dans le domaine de Chantilly, dans l'Oise. C'est chaque samedi jusqu'à fin novembre, de 14h à 16h. Et plus d'infos sur domainechantilly.com.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
De retour en plateau avec notre invité Olivier Babeau pour cette émission consacrée aux effets du numérique sur nos vies. Je rappelle qu'Olivier Babeau est l'auteur du nouveau Désordre numérique paru aux éditions Buchet-Chastel.
Alors vous écrivez, Olivier, et là vous êtes à mon sens franchement pessimiste, que la démocratie à l'ère Internet n'est plus le meilleur modèle car en concurrence directe avec les réseaux sociaux, ces derniers, 1000 fois plus puissants. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle américaine et bientôt la France sera en campagne électorale. Alors la question est simple, si nous faisons ce constat de la puissance, de la toute-puissance des réseaux sociaux, est-ce que le fait de légiférer pour réguler permettra d'avoir des débats politiques un peu plus sereins?
Alors attention, je ne pense pas que... Enfin, je continue à penser comme Churchill que la démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres, hein. Donc je ne plaide pas pour les technodictatures, certainement pas. Alors seulement j'exprime le fait que les réseaux sociaux affaiblissent extrêmement profondément le fonctionnement de la démocratie. savez ce que la phrase de Nietzsche qui dit que le contraire ou l'ennemi de la vérité, ça n'est pas l'erreur, c'est la conviction, la certitude. Eh bien, c'est un petit peu ça dont souffre aujourd'hui la démocratie, qui nécessite à un moment donné que vous soyez capable d'aborder quelqu'un qui ne pense pas comme vous, avec peut-être une partie, un tout petit peu l'idée que peut-être que l'autre a aussi un petit peu raison, et que cet échange de points de vue va naître des arguments, vont s'échanger les arguments, et va naître une sorte de, comment dire, de point de vue dialectiquement un peu supérieur, et peut-être pourquoi pas un consensus. C'est ce qu'on pense de la démocratie, c'est normalement ce que doit produire la démocratie. Malheureusement, les réseaux sociaux ont créé un effet terrible. Certes, tout le monde va pouvoir devenir son propre média, certes, tout le monde va pouvoir s'exprimer, mais paradoxalement, ça n'apporte pas de la clarté, au contraire, ça a permis la cristallisation des points de vue les plus extrêmes et la transformation des points de vue en opinion, en certitude et finalement en croyance religieuse. Et or, on ne remet pas en cause une croyance religieuse, on ne discute pas, on n'argumente pas avec une croyance religieuse, à la limite, ça deviendrait une sorte de théologie, mais c'est ce qu'on voit tous les jours. Ce que je décris, c'est pas une crainte comme ça, dans l'absolu, c'est la réalité de ce qu'on voit. Regardez le dernier débat entre Biden et Trump. À aucun moment ils se sont réellement parlé, ils ont échangé des invectives et quelques insultes. En réalité, ils ne parlaient qu'à leur propre camp. Aujourd'hui, vous avez des camps politiques qui sont de plus en plus radicalisés, qui sont d'ailleurs de plus en plus violents. Il n'y a plus de capacité à débattre réellement. Il y a juste, le fait de tourner sur soi-même dans la même persuasion qu'on a raison.
Et
dans
est-ce
même
qu'il faut légiférer ? Est-ce qu'il faut imposer une nouvelle règle, une norme pour tenter de casser ces bulles que vous décrivez ?
Le problème, c'est que vous avez le choix entre Charybde ou Scylla. Hein. Soit vous avez la jungle amazonienne du n'importe quoi avec, du coup, les délires complotistes et les gens qui pensent que les anti-vaccins, les gens qui pensent que la Terre est plate et que le Covid a été créé par, je ne sais quoi, par Jobs, non pas Steve Jobs, il est mort, par Bill Gates, etc. Bon. Et puis, de l'autre côté, vous auriez l'idée que vous allez légiférer, donc vous allez en quelque sorte castrer le débat dès l'origine, vous allez l'aseptiser et vous allez faire un jardin à la française complètement artificiel. On a deux, et donc vous allez tuer le débat encore plus et de toute façon. La question est comment arriver à garder le meilleur du débat sans avoir ces effets d'agrégation, ces effets de chasse en meute terribles qui font que quelques minorités actives vont pouvoir se mobiliser pour arriver à faire la chasse à ceux qui ne pensent pas de la même façon et assister du coup au développement de cette économie, de ce débat politisé hystérique permanent qui a été créé par les réseaux sociaux. Comment sortir de l'hystérie, revenir dans la raison, comment garder le meilleur des réseaux sociaux? On n'a pas encore trouvé la façon aujourd'hui de modéliser, de créer de la censure qui reste quand même problématique, de façon à ce que ça soit produit, mais vous avez raison, c'est un des enjeux.
Est-ce que vous avez des craintes par rapport à la prochaine élection présidentielle américaine qui est maintenant et éventuellement française?
J'ai des craintes par rapport à toutes les élections dans toutes les démocraties. On est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler un état de chaos au sens propre. C'est kaino en grec, ça veut dire grand ouvert. Et en fait, c'est ça, c'est grand ouvert. C'est-à-dire que tout peut se passer. Les partis traditionnels sont morts. Autrefois, pour accéder à un niveau politique qui était significatif, il vous fallait un appareil politique, il vous fallait des gens locaux, il vous fallait des pas de porte, il vous fallait des permanences, il vous fallait des élus. Ça prenait vachement de temps. Il y avait un coût d'entrée énorme sur le marché. Le numérique, c'est ça qui est intéressant. Il a abaisser le coût d'entrée sur la plupart des marchés, en fait. C'est pour ça que les startups peuvent arriver facilement, parce que le cloud coûte rien et il n'y a plus d'investissement de la même façon. Bon, eh bien, il a abaissé le coût d'entrée sur le marché politique, mais quasiment à zéro. N'importe qui, avec son ordinateur,
sa chaîne YouTube.
Voilà, sa chaîne YouTube, peut arriver à se faire élire. Regardez Bolsonaro. Bolsonaro était totalement inconnu un an avant son élection. Il a été propulsé grâce à YouTube. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible que quelqu'un d'inconnu aujourd'hui émerge. Et le problème du pouvoir, quand il est à terre, c'est qu'on sait jamais qui va le ramasser.
Et alors qu'on vient de passer les deux premiers tiers de cette émission, on va refaire une petite pause, mais on va rester en lien avec ce numérique qui dévore nos vies. Une seule chanson s'imposait pour notre petit passage musical, c'est la chanson « I put a spell on you » de la géniale Nina Simone. « I put a spell on you », c'est la traduction de « jeter un sort ». Comme si le numérique nous avait un peu tous envoûtés, c'est bien de cela dont nous parlons dans cette émission. Et on se retrouve tout de suite après avec notre invité Olivier Babot.
I put a spell on you. I
En studio avec Philippe Boyer et avec notre invité Olivier Babot.
Olivier, vous écrivez sous forme presque de morale d'une fable qui aurait peut-être mal tourné. Et là encore, je vous cite, qu'un mensonge qui passionne vaut mieux qu'une vérité qui déçoit. On évoquait les réseaux sociaux avant la pause musicale. Et cette fable de morale à La Fontaine, ça s'applique plus que jamais aussi aux réseaux sociaux ?
Absolument. D'ailleurs, on a constaté sur Twitter qu'une fausse nouvelle se développe et retweetée 6 à 7 fois beaucoup plus vite qu'une vraie, en fait. On préfère beaucoup plus une vérité, effectivement, qui frappe, quelque chose qui frappe, même si c'est faux. Et d'ailleurs, il y a des grands journaux, je crois que c'était le New York Times, qui avait essayé de faire une sorte de chronique débunkage, et puis ils se rendaient compte que les gens, ça ne les intéressait pas du tout. Ils n'ont pas envie d'être débunkés, en fait. Ils sont beaucoup plus intéressés par l'émotion débunkée, au sens. Ils n'ont pas envie d'être détrompés, ils n'ont pas envie qu'on leur explique que ce qu'ils croyaient est faux, en fait, radicalement. Vous savez, s'il y a bien un truc que toute la psychologie montre sur notre cerveau, c'est qu'on n'a pas envie de changer de croyance, en fait. Hein. On persévère dans notre croyance. Il n'y a rien de plus pénible que de changer de croyance. Et donc, le système est là pour nous aider à, de plus en plus, à nous vautrer dans notre croyance. Et c'est bien l'idée de l'algorithme qui va en permanence vous enfermer dans la bulle cognitive et vous y faire courir. Vous aurez cet effet terrible. Vous savez,
mais il
n'y
a pas
psychologues...
aussi une appétence pour un peu le dramatique ?
Mais absolument. En fait, quand vous rajoutez sur Twitter en particulier des mots durs, des mots d'indignation, vous êtes beaucoup plus retweeté, en fait. C'est-à-dire que vous avez une prime à l'excès. Voilà. Et c'est ça qui est terrible.
Médias, quand on partage des articles, les articles tristes sont toujours plus
mauvaises nouvelles,
plus relayées, ouais. Les mauvaises nouvelles, bien sûr, plus relayées et plus engageantes que les bonnes.
Voilà, vous avez une prime à l'émotion sur la raison, parce que nous sommes des êtres émotifs, des êtres d'affect, et donc on a envie d'être ému, et c'est ça qui va ressortir naturellement. Donc c'est l'expression la plus extrême, et on est à l'inverse de ce que les Grecs, ce pourquoi, vous voyez, ils plaidaient à travers l'idée du rien de trop, vous savez, au temple d'Apollon à Delphes, hein. On est vraiment au contraire dans l'hubris. On est dans une société où le numérique favorise l'expression de l'hubris et non pas celle de la nuance, celle de l'entre-deux, celle de l'ambiguïté, de l'acceptation de l'ambiguïté que j'avais défendue dans un autre bouquin sur Éloge de l'hypocrisie avant. Toute cette idée que les choses ne sont pas toujours tout blanches ou tout noires, qu'on ne peut jamais soutenir une thèse sans penser que l'autre a peut-être un peu raison, c'est ça qui disparaît et c'est donc en fait tout le débat public qui disparaît. Et c'est dramatique parce qu'on a besoin de gens d'élite, on a besoin de citoyens d'élite qui soient capables de voter sans se faire avoir par le premier démagogue venu. On a besoin de consommateurs d'élite qui n'aient pas le cerveau tellement ramolli qu'ils vont acheter n'importe quoi. Et on a besoin de travailleurs d'élite qui continuent à être efficaces à l'ère du numérique. Et ça, c'est difficile.
Alors justement, le numérique tout le temps, partout, et la crise sanitaire de ce printemps a montré que la puissance du numérique, tant en ce qui concerne l'e-commerce que le télétravail, était omniprésente. Et c'est d'ailleurs grâce à ce télétravail, alors voulu ou subi, que des entreprises ont pu continuer à travailler. Pourtant, et pour le libéral que vous êtes, vous ne vous réjouissez pas forcément de cette situation. Pourquoi ?
La technologie a permis des choses extraordinaires. Elle nous a rendu énormément de services pendant ce confinement. Mais en même temps, elle nous a rendu encore plus dépendants. D'ailleurs, je pense qu'elle a probablement augmenté la dépendance de beaucoup de gens aux écrans. Il faut rappeler quand même que la télévision, c'est en moyenne toujours, encore plus aux États-Unis, mais chez nous, c'est environ 3h45 par Français de plus de 5 ans et par jour. Hein. Vous rajoutez environ 4 heures d'écran d'hiver, ça veut dire que la plupart...
10 heures.
En fait, nous vivons la plupart de notre temps éveillé en fait devant des écrans aujourd'hui. L'écran, c'est ce qui nous met en relation, mais c'est aussi au sens propre ce qui fait écran, c'est-à-dire ce qui bloque dans les relations humaines. Alors c'est vrai que les relations humaines en ce moment avec le Covid, elles ont plutôt mauvaise presse, c'est pas le moment.
Elles sont masquées.
Elles sont masquées et puis elles sont découragées. Donc un jour, peut-être que la vraie vie va finir par revenir, mais naturellement, on se rend bien compte que le digital ne va pas favoriser ça autant qu'on aurait pu l'espérer. C'est pourquoi j'essaye juste d'alerter sur le fait qu'il faut qu'on s'en rende compte et que se rendre compte que ces technologies ne nous mettent pas forcément en relation. D'ailleurs, regardez les entreprises qui ont abandonné les bureaux. D'ailleurs, ça a été mon cas. Bah, commence à se dire, mais il manque quelque chose d'absolument essentiel.
Ce moment aussi qui permet
de mieux se connaître, qui permet aussi la créativité en fait en entreprise. Et vous savez, si les villes ont été l'endroit où on a créé la civilisation, parce que c'était l'endroit extraordinaire où tout le monde se rencontrait. Et de cette rencontre, un peu comme des boules de billard, naît l'énergie extraordinaire. Et on est dans un monde où de plus en plus on est séparés, et je crois qu'on perd profondément une partie de notre créativité.
Peut-être le thème d'un futur livre. Vous distinguez les techno-leaders et les techno-largués. Oui. J'aime bien l'expression. Notre existence peut-elle finalement se réduire à ces deux statuts ? Est-ce qu'il n'existe pas une sorte d'entre-deux ?
Vous savez, il y a beaucoup d'analyses là-dessus que je dis dans mon livre, les somewheres et les anywheres. Sociologiquement, on a des populations qui sont de plus en plus séparées avec cet électronisme dont je parlais. Probablement, la question est d'inventer un entre-deux. Il ne s'agit pas de faire des techno-leaders, des techno-largués, des techno-leaders nécessairement, mais peut-être d'essayer de se retrouver autour d'une nouvelle façon de faire société. Et le grand drame, c'est probablement qu'on a, et c'était ce que montrait un auteur qui faisait une analyse de la société américaine, depuis les années 60. On a une société qui était très homogène historiquement et qui aujourd'hui est totalement séparée avec des façons de vivre, avec des références et une volonté de faire société en fait qui a disparu et qui peut créer à terme des formes de guerre civile. Et ça, c'est évidemment extrêmement terrible. Vous savez ce que disait Victor Hugo ? Il disait le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable. La révolution, elle peut être possible sans heurts et elle peut aussi être vécue terriblement. Le progrès, c'est cette façon d'arriver à un progrès collectif, une amélioration collective sans que ça soit terrible. Et moi, j'ai peur justement de ces frottements, de ces difficultés.
Il faut absolument qu'on invite Olivier Babeau pour son prochain livre. Merci.
Avec plaisir.
Merci en tout cas. Olivier Babeau d'avoir été notre boussole pour cette émission passionnante. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un essai intitulé « Le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités ». On en a longuement parlé, paru aux éditions Buchet-Chastel. Merci Johanna.
Merci à vous Philippe.
Et à
toute
Merci. L'équipe de Radio Immo qui a œuvré à la préparation de cette émission. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. En attendant, je vous rappelle que cette émission peut être réécoutée en podcast sur le site de Radio Immo et surtout les players de podcasts, comme l'on dit. D'ici là, bon vent, cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Il est complètement fou ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Ah, bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.